Les orages maléfiques, chapitre
27.
Saïgon, la métropole du Sud, attirait beaucoup de monde. Le cœur économique du pays battait ici. Le peuple industrieux s'affairait pour traiter les affaires. Chacun essayait de profiter des richesses à sa manière. Le moindre mètre carré servait à installer un atelier ou une échoppe. Il errait au milieu de ce monde qui n'était plus le sien. Au contraire, cette agitation permanente lui donnait le tournis. Il aspirait à autre chose. Ses pensées vagabondaient entre son destin cruel et une femme qu'il avait lâchement fui. Il visita la cathédrale. Le bâtiment en briques rouges accueillait fidèles et touristes dans un flux ininterrompu. Il ne trouva rien d'extraordinaire à voir. Hormis son passé colonial, l'édifice ne présentait pas un grand intérêt architectural et sa décoration ne rivalisait pas avec une église vénitienne. Il en était tout autrement de la poste centrale située en face. Rénovée, la façade offrait un aperçu de la colonisation française en Indochine. Au sommet d'un clocheton, le drapeau vietnamien, rouge avec une grande étoile jaune au centre, flottait au vent. Il pénétra à l'intérieur. Le portrait de l'oncle O, au fond de la salle, embrasait les lieux de son regard bienveillant. Entouré de deux globes terrestres et d'une pendule, le vieil homme donnait de la solennité au lieu. Le silence régnait dans ce décor. La voûte se terminant en son milieu par une verrière ajoutait du volume à cet espace qui n'en manquait pas. Il resta un moment posé sur une chaise à regarder travailler les postiers. Le courrier revêtait un aspect magique à ses yeux. L'épopée de l'aéropostale n'y était pas étrangère. De nos jours, le fonctionnement de ces acteurs incontournables avait perdu de sa poésie, et seuls subsistaient des noms de légende, Mermoz, Saint-Exupéry et quelques autres moins célèbres. Il se rendit aux halles de Cholon. Certains surnommaient l'endroit le ventre et la marmite de Saïgon. Il emprunta un moyen de locomotion lui permettant de profiter tout à loisir de l'animation de la rue. Le cyclopousse avançait lentement, se frayant un chemin parmi la circulation. Arrivé sur place, il fut généreux avec le vieux travailleur qui fit 1000 courbettes en guise de remerciement. Arc-bouté sur sa machine, il n'avait pas pédalé pour rien. Avec un seul client, il venait d'encaisser le salaire de 2 journées de labeur. Il pouvait souffler un peu et aller fumer une pipe d'opium dans un tripot clandestin. Malgré l'effervescence autour de lui, il ne parvenait pas à se détacher du visage et du corps de déesse de Suong. Cet épisode le marquait durablement. Il revivait la soirée qu'ils avaient passée ensemble, les doux moments assis sur le lit, l'échange de baisers et sa volonté de ne pas poursuivre. Il voulait la revoir, mais 2 minutes plus tard, il ne le souhaitait plus. Son cœur était victime de sentiments contradictoires. Il subsistait un comportement dont il avait honte. Sa fuite le peinait beaucoup. Il ne comprenait pas qu'à son âge, il ne puisse affronter la vérité en face. Il se trouvait trop vieux pour se lancer dans une conquête amoureuse. Ce temps était révolu, et puis il ne sillonnait pas l'Asie pour ça. Il cherchait la sérénité, tout simplement. Il pensa descendre jusqu'au delta du Mékong, où il gardait un souvenir ému de son escapade avec sa tendre moitié. Il n'avait pas oublié la couleur de l'eau, un liquide boueux où évoluaient des myriades d'embarcations, toute une faune maritime vivant des échanges fluviaux. Des ferries, des bateaux de marchandises, des barques se frayaient un passage pour rejoindre les ports ou les marchés. Il revoyait cette jeune femme qui manœuvrait avec précaution et dextérité. Elle connaissait le fleuve et ses pièges. Elle transportait des fruits et des légumes qu'elle vendait sur le marché flottant. Sa fille dormait allongée sur une natte. Les vagues dépassaient parfois la ligne de flottaison, au risque de déséquilibrer l'embarcation chargée au maximum. Elle lui avait inspiré un texte qu'il avait intitulé « La fille du Delta ». Il le récita dans sa tête. Le bateau glisse sur l'eau boueuse. La femme à la main ferme rame. Le Mékong nourricier tisse sa trame. Debout sur l'esquif, elle est soucieuse. Le vieux bateau est bien chargé. Le bois craque face à la vague. Gare aux détritus qui divaguent. Il faut être attentif au danger. Au petit matin, elle est partie, prenant avec elle sa fille à bord. Les autres s'agitent dans le port. Ici se joue une drôle de partie. Pour la gagner, il faut être rapide. Remplir bien vite la barque. Fruits et légumes on embarque, à la grâce du fleuve qui décide. Le soleil se lève à l'horizon. C'est pas le moment de musarder. Sur l'eau, la meute ne va pas tarder. Est venue l'heure des livraisons. Le marché est un endroit curieux, un mélange d'odeurs et de couleurs, où battent d'immenses cœurs, les sourires sont merveilleux. Et toi tu arrives, jeune batelière, tu t'arrimes comme à ton habitude, pas de temps mort ni de lassitude. Tu négocies, l'attitude fière et altière. Tes fruits sont beaux et tu le sais, ta fille endormie est silencieuse. Le clapotis et sa douce berceuse. Enfin, tous tes produits sont placés. Tu vas revenir à vide, le cœur léger. Qu'il vente ou qu'il pleuve, chaque jour tu es sur le fleuve. Fille de l'eau qui ne sait pas nager. Avec autour l'ombre des bananiers et l'odeur sucrée de la frangipane. Au bord de l'arroyo est ta cabane. La toiture en feuilles de palmier, une natte posée sur un châssis. Dans un coin, un chat famélique pour éloigner les esprits maléfiques. Même la superstition est ici. La pauvreté est ton royaume. Tes yeux de jais et ton sourire, ton passeport pour survivre. Au delta, c'est toi l'homme. Aujourd'hui, la gamine doit être à la manœuvre sur l'eau. Sa mère a dû lui passer le flambeau. Ainsi va la vie dans ces contrées. Il revit son débarquement sur un ponton exsangue d'avoir vu passer trop de gens. Il s'était retrouvé dans un atelier de récupération de piles et batteries. Des jeunes femmes décortiquaient ces pièces dangereuses, sans masque ni gants. La pièce fermée et sans lumière devait receler une quantité de matériaux pouvant empoisonner des centaines de personnes. Mais elle travaillait stoïque. La maladie faisait partie du risque. Mais sans ça, pas d'autre travail ne s'offrait pour elle. Alors elle préférait le danger à la misère. Pour elle, c'était l'un et l'autre. Leur balade en barque dans les arroyos lui laissait aussi des souvenirs plein la tête. Il avait été marqué par les sourires et les signes des enfants se baignant nus parmi la boue et les excréments. Des sacs en plastique flottaient çà et là. Sur les berges, des cabanes aux toits de palme abritaient des familles. Une végétation luxuriante servait de décor à la pauvreté. Il n'était pas certain que la misère soit plus supportable au soleil. Le contraste avec le nord du pays sautait aux yeux. Ici, chacun gérait sa condition avec comme seul espoir s'en sortir par soi-même. Dans l'autre moitié du Vietnam, la solidarité s'exprimait au quotidien. Personne ne se trouvait abandonné. On partageait tout, même lorsqu'il n'y avait pas grand-chose. Dans le sud, l'individualisme, hérité de la présence occidentale, mettait sur le tapis des milliers de pauvres. La miséricorde n'arrivait pas jusqu'à eux. Il hésita, puis décida de se rendre ailleurs. Il pensa qu'un séjour dans la baie d'Along serait le bienvenu. Inconsciemment, il se rapprochait de Suong.